9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Dimanche prochain, le deuxième tour de l'élection présidentielle départagera Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais comment a été inventée en France la présidence de la République ? L'historien Maxime Michelet va nous le raconter dans un instant. Et puis la compagnie Swissair a annoncé qu'elle sera l'année prochaine la première compagnie aérienne du monde à utiliser du kérosène solaire pour faire voler ses avions. Maxence Cordier est un spécialiste des énergies. Il vient nous expliquer ce que c'est le kérosène solaire, ce carburant qui n'émet pas de CO2 dans l'atmosphère. Et l'on terminera l'émission avec Marianne Chaillan. Elle est prof de philo et elle a fait un travail très original. Elle a disséqué les messages philosophiques distillés dans tous les dessins animés de Walt Disney à l'intention des enfants. Et elle va nous les énumérer.
Europe 1.
Maxime Michelet, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes historien, mais c'est un livre tout à fait d'actualité que vous sortez chez Passé Composé. Hein. Il s'intitule « L'invention de la présidence de la République ». La fonction suprême est née en effet en France avec la Deuxième République en 1848. Et c'est en fonction de la présidence exercée à l'époque par Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, que l'on va la repenser dans la constitution de la Troisième République en 1875, dans la constitution de la Quatrième en 1946, puis la modifier en 1958 avec la Ve République. En fait, tout vient de là. Hein.
Tout vient de là, tout à fait. À la fois par le modèle que pose Louis-Napoléon Bonaparte durant son mandat, mais surtout par le contre-modèle qu'il pose et par le traumatisme que sa présidence provoque dans la conscience républicaine.
Le premier président de la République française est élu au suffrage universel pour un mandat de 4 ans, non reconductible, et il s'installe à l'Élysée. C'était très peu, hein, 4 ans non reconductibles.
4 ans non reconductibles, c'est très très peu, d'autant plus que Louis-Napoléon Bonaparte est en réalité élu pour 3 ans et demi, puisque son mandat doit s'achever en mai 1852. Mais il n'y a pas que le mandat qui est un peu réduit. Vous parliez de l'Élysée. Si le président de la République habite l'Élysée, en 1848, on choisit ce palais non pas pour lui rendre hommage et honneur, mais parce que c'est un petit palais. Car c'est un petit palais abandonné et on espère comme ça indiquer au chef de l'État, au nouveau chef de l'État, qu'il ne doit pas non plus se prendre pour un roi.
Oui, il aurait pu être dans le château des Tuileries.
Il aurait pu être dans le château des Tuileries, ça aurait été
d'ailleurs
logique.
Il ira d'ailleurs une fois empereur.
Tout à fait.
Parce que Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'État au bout de 3 ans. C'est pour ça, à votre avis, qu'on a allongé à 7 ans sous la Troisième République le mandat du président de la République et que Emmanuel Macron et Marine Le Pen aujourd'hui parlent de rétablir d'ailleurs le septennat. Hein.
Ce qui est étonnant avec le septennat, c'est que le septennat n'a aucune base pensée politiquement, dirais-je, pour choisir cette durée de 7 ans. Si en 1873, on choisit 7 ans, c'est qu'à l'époque, là, nous faisons un bond dans le temps, mais le président MacMahon, on lui donne 7 ans pour que durant ces 7 ans, le comte de Chambord, l'héritier du trône de France, ait le temps de mourir et que le comte de Paris puisse devenir l'héritier légitime des rois de France. C'est donc une durée fondée sur absolument rien.
Aucune raison politique
et sur la perspective de laisser le temps à l'héritier du trône de France de mourir.
Alors Louis-Napoléon Bonaparte est élu au suffrage universel direct. On changera le mode de scrutin sous la troisième. Il sera alors élu par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Et c'est le général de Gaulle qui rétablira le suffrage universel direct en 1962 par référendum. Et on lui a opposé, là encore, le mauvais souvenir qu'avait laissé Louis-Napoléon Bonaparte.
Tout à fait. Lorsque le général de Gaulle rétablit le suffrage universel pour l'élection présidentielle en 1962, aussitôt, le fantôme de Napoléon III ressurgit des geôles, dirais-je, de notre histoire. François Mitterrand lui oppose un livre qui s'appelle « Le coup d'État permanent », référence directe au 2 décembre 1851. Le canard enchaîné le caricature en badingole avec les grandes moustaches de Napoléon III et l'uniforme de Napoléon III.
On l'appelait Badinguet, hein, Napoléon III.
en référence à Badinguet, le surnom peu affectueux qu'on donnait à Napoléon III. Et même dans le discours du général de Gaulle en septembre 1962, lorsqu'il annonce au peuple français qu'il veut rétablir le suffrage universel direct pour la présidentielle, il dit quant à lui qu'en 1958, il n'a pas eu besoin d'établir cette élection car il avait déjà reçu l'onction de l'histoire. Et il dit « En 58, je n'avais pas besoin d'un plébiscite ». Et le terme de plébiscite est une référence directe, claire, nette au précédent napoléonien du Second Empire.
Mais en 1848, cette élection au suffrage universel direct, dont sont exclues uniquement les femmes, hein, ça n'est pas un suffrage censitaire, comme il a pu y en avoir pendant la Première Révolution. C'est donc un suffrage universel direct, comme celui que nous connaissons. Pourquoi c'est considéré déjà, à l'époque, comme un grand danger pour la République
Alors c'est considéré avant tout comme une chose inédite. Sans aucun point de comparaison dans l'histoire et dans le monde à ce moment-là, vous avez 9 millions de personnes qui vont se réunir pour élire le président de la République, leur chef suprême. Alors ce qui fait peur à la République, c'est de confier à un seul homme un pouvoir exécutif en réalité faible. Donc ce n'est pas sur la question du pouvoir. Le président de la République, de la Deuxième République, a très peu de pouvoir exécutif.
On va voir, en effet.
Ce qui fait peur aux républicains en 1848, c'est l'onction. L'un des républicains dit durant les débats, c'est un sacre plus puissant que celui de Reims, que le sang de Saint-Louis, que l'onction de Clovis. C'est celui du suffrage universel. Vous allez avoir un homme qui va être élu par 9 millions de Français, un homme qui va se mettre incarné le peuple tout entier, alors qu'en face de lui, il aura une assemblée de 750 députés élus dans des circonscriptions qui ne représenteront que théoriquement la nation, mais surtout leurs électeurs, alors que lui, c'est là leur grande peur, le président de la République pourrait devenir une incarnation vivante du peuple et dire un jour à l'Assemblée, vous n'êtes que des centièmes du peuple, je suis le peuple, je suis plus représentatif que vous.
La rencontre d'un homme et d'un peuple, dont parlera le général de Gaulle bien plus tard.
La rencontre d'un homme et d'un peuple, et pour 1848, je dirais même la rencontre d'un nom et d'un peuple, puisque Louis-Napoléon Bonaparte est élu avant tout, il est peu connu, il vient seulement de rentrer d'exil en décembre 1848, il a eu une jeunesse tumultueuse, ce n'est pas un inconnu total, mais il est surtout élu car il s'appelle Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il est le neveu de son oncle Napoléon Ier, mais ce n'est pas qu'un nom, ce n'est pas qu'un folklore. Les Français ne votent pas pour Napoléon Ier en pensant qu'il est sorti de son tombeau. Ce n'est pas possible. À Paris, Louis-Napoléon fait 60%. Les Parisiens savent bien que Napoléon Ier est aux Invalides. Louis-Napoléon est élu car il s'appelle Bonaparte et car Napoléon Bonaparte, Bonaparte, ça signifie quelque chose dans l'esprit des Français.
On fait une pause, Maxime Michelet. On y revient juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Maxime Michelet, l'auteur de « L'invention de la présidence de la République » qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. Cette élection, cette première élection au suffrage universel direct du premier président de la République, en l'occurrence Louis-Napoléon Bonaparte, âgé à l'époque de 40 ans, elle va laisser un très mauvais souvenir. Elle a mauvaise réputation. On a parlé ensuite de l'ignorance des campagnes. Là, je ne parle pas des campagnes électorales, mais bien des campagnes française. Au fond, on laisse entendre à partir de ce moment-là que le peuple n'est pas capable de désigner son représentant suprême.
Tout à fait. Et vous avez dans les débats constitutionnels à ce sujet, des députés conservateurs qui le disent très nettement d'ailleurs, qui disent un paysan français au fin fond des campagnes françaises qui a pour horizon, et je cite leurs termes, qui a pour horizon son champ de patates, son champ de carottes, comment peut-il se mettre à la hauteur des grands enjeux qu'un président de la République va devoir embrasser? Donc il y a, c'est quelque chose d'important à rappeler, il y a à gauche comme à droite à ce moment-là, une méfiance vis-à-vis du peuple. À droite de l'échiquier politique chez les conservateurs, elle est intrinsèque, elle est constitutive quasiment, mais il y en a aussi une à gauche. Et du côté gauche, on pense qu'il est encore trop tôt, que le peuple n'est pas encore assez éduqué. En réalité, pour éduquer, entendez républicain. Le peuple n'est pas encore républicain, il ne faut pas encore donc lui donner le droit de vote. Et les républicains, l'historiographie républicaine, racontera ensuite, et j'essaie de le déconstruire dans mon ouvrage, racontera que les paysans français se sont jetés sur Louis-Napoléon Bonaparte, sur la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, sans même comprendre ce qu'il faisait en donnant le pouvoir à cet homme. C'est George Sand, grande écrivaine et grande conscience républicaine de l'époque, qui dit notamment, en 1848, le peuple était une sorte de grand enfant qui s'est blessé en utilisant pour la première fois son nouveau jouet, son nouveau fusil.
Alors, sous la 3e et sous la 4e République, on s'en souvient, le président de la République n'avait aucun pouvoir. Sa seule fonction, au fond, était de nommer le chef du gouvernement. Ça aussi, d'ailleurs, c'était en réaction à Napoléon III. Mais Napoléon III, quand il était président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, concentrait très peu de pouvoir entre ses mains.
Tout à fait. En 1848, la Constitution de la Deuxième République octroie au président de la République des pouvoirs qui sont grosso modo ceux de la Quatrième République. Et on ne peut pas dire que les présidents de la 4e République se soient particulièrement distingués par l'étendue de leur pouvoir exécutif. Le traumatisme au niveau du pouvoir exécutif dans la mémoire républicaine, elle ne vient pas de ce mandat, elle vient de ce qui va succéder au premier mandat présidentiel, c'est-à-dire le coup d'État, c'est-à-dire le Second Empire. Et la théorie napoléonienne, qui sera reprise d'ailleurs par le général de Gaulle pour la 5e République, qu'il faut un chef désigné par le peuple, au suffrage universel, direct, et que ce chef qui incarne la volonté populaire, qui permet à cette volonté populaire de devenir une action, eh bien ce chef doit exercer une primauté exécutive particulièrement forte. Sous le Second Empire, le Parlement est vraiment réduit à portions congrues. Et en 1958, le général de Gaulle fait une constitution où l'on parle tout de même de parlementarisme rationalisé et où le pouvoir exécutif a beaucoup d'outils pour agir sur le pouvoir législatif.
Mais alors ce qui est drôle, c'est que sous la 3e et sous la 4e République, on va constamment se servir du souvenir de la 2e République pour bannir toute idée d'un pouvoir exécutif fort.
C'est tout à fait paradoxal. Le pouvoir exécutif de la 2e République était très limité. Mais il faut à tout prix, pour les Républicains, expliquer que c'est car ce président avait trop de pouvoir qu'il a fait un coup d'État pour se maintenir au pouvoir et que donc ce qui est interdit, ce qui est très dangereux dans le pouvoir exécutif, c'est lui donner trop de pouvoir. Alors qu'en réalité, Louis-Napoléon Bonaparte n'avait pas tant de pouvoir exécutif que cela, mais il avait une aura absolument prodigieuse qui lui était donnée par son nom et surtout qui lui était donnée par l'onction du suffrage universel. Il avait tout de même été élu. Rappelons-le, cela donnerait des envies à certains et des jalousies à certains aujourd'hui. Élu tout de même avec 75% des suffrages au premier tour.
Et il faut rappeler qu'à l'avènement de la 5e République, son exécutif renforcé, évidemment, on évoquera le souvenir de Napoléon III et on va parler à ce moment-là, vous l'avez dit, de coup d'État permanent, en référence évidemment à Napoléon III, encore et toujours, ou du moins au premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte.
C'est la meilleure preuve, à mon sens, de la filiation qu'il y a entre le bonapartisme et le gaullisme. Alors, on ne va pas dire que le bonapartisme est un gaullisme. Moi, j'ai tendance à dire que le bonapartisme est un peu le grand-père du gaullisme. Il y a donc à la fois la ressemblance et la distance qu'un petit-fils peut avoir avec son grand-père. Mais le général de Gaulle, lorsqu'il fait la constitution de 1958, en effet, il reprend des principes louis-napoléoniens, à mon sens. Mais la mémoire de Louis-Napoléon est tellement maudite au sein de la République qu'il est impossible pour le général de Gaulle de se revendiquer de Napoléon III, même encore aujourd'hui. Il y a autour de Napoléon III toute une mémoire pavlovienne, toute une mémoire de réflexe pavlovien. Dès qu'on vous parle de Napoléon III, deux dates surgissent, le coup d'État, Sedan, la dictature et la défaite.
Oui, le coup d'État, c'est le 2 décembre 1851. La légalité constitutionnelle étant devenue, d'après Louis-Napoléon Bonaparte, attentatoire aux droits du peuple. Il y a un plébiscite qui l'approuve, hein, 92%, 6 ou 7 millions de Français votent pour le coup d'État, au fond, un tiers du pays, il faut dire, à ce moment-là, est placé sous état de siège, sous régime militaire, et il reste président de la République. Hein. Il a fait son coup d'État, il reste président de la République. On ne l'appellera Monseigneur qu'un an plus tard, le prince-président, au moment d'ailleurs où il emménage au château des Tuileries, parce que l'Élysée, c'était trop petit. Et puis, empereur, un an plus tard, là encore, approuvé par un plébiscite.
Vous parliez du coup d'État et de la légalité constitutionnelle républicaine. Il ne faut pas croire que le coup d'État du 2 décembre 1851 est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il y a depuis 1850, chez Louis-Napoléon Bonaparte, une rhétorique qui se déploie. Cette rhétorique, c'est celle des droits du peuple. Comme il est l'élu du peuple, il est naturellement l'incarnation et le garant de ses droits. Et ce qu'il y a de plus intéressant dans cette rhétorique-là, et qui a des fondements chez Napoléon Bonaparte et dans la Révolution, et qui a des continuités jusqu'à nos jours, jusqu'à l'entre-deux-tours que nous vivons aujourd'hui, dans cette rhétorique-là, la l'égalité constitutionnelle n'est jamais supérieure à la souveraineté du peuple. Dans la logique louis-napoléonienne, quand le peuple décide, le peuple décide. Le peuple peut défaire ce qu'il a fait, donc le peuple peut défaire une constitution. C'est l'idée qui nous vient de la Révolution, qui nous vient de Napoléon Ier et de Napoléon III, que le peuple souverain est au-dessus de l'ordre constitutionnel. Et on le voit actuellement dans les débats d'entre-deux-tours avec les propositions de certains candidats, qu'il y a encore aujourd'hui cette tradition politique en France, elle existe toujours, elle vient du bonapartisme, elle vient de l'exemple de Napoléon III, et d'ailleurs elle est reçue encore aujourd'hui, comme elle l'a été en 1962, comme elle l'a été aussi sous le Second Empire, elle est reçue par une levée de boucliers aussitôt du républicanisme et de la tradition républicaine qui a bien raison de se défendre face à une tradition qui s'est construite, somme toute, contre elle.
Merci Maxime Michelet.
Merci à vous.
L'invention de la présidence de la République. Votre livre vient de paraître aux éditions Passé Composé. On fait une pause, on se retrouve juste après. On va parler d'énergie. C'est capital l'énergie, on en parle même pendant la campagne présidentielle.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Maxence Cordier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, vous travaillez pour un organisme de recherche publique spécialisé dans l'énergie et vous publiez dans la collection Fake or Not chez Tana Éditions le livre consacré aux énergies, un sujet capital dont dépend absolument toute notre existence. Je rappelle que chaque jour, l'humanité consomme 16 milliards de litres de pétrole, 11 milliards de mètres cubes de gaz et 22 millions de tonnes de charbon. Ce sont des chiffres que j'ai trouvés dans votre livre. Tout ça, c'est chaque jour, hein.
Tout ça, c'est chaque jour.
Alors, la compagnie aérienne Swissair vient d'annoncer une nouvelle que moi, j'ai trouvée extraordinaire. Elle sera l'année prochaine, en 2023, la première compagnie aérienne au monde à utiliser du kérosène solaire pour faire voler ses avions à carburant qui n'émet pas de CO2. C'est une révolution.
Alors, il faut tempérer un petit peu ça. Les choses évoluent rapidement là-dessus, mais il y a encore beaucoup d'effets d'annonce là-dedans. Il y a beaucoup de projets actuellement soutenus par l'Union européenne et par les États membres visant à développer des alternatives aux combustibles fossiles, notamment pour l'aviation. Donc il y a les projets en Suisse comme celui que vous mentionnez. Il y a d'autres projets en Europe, en France, en Norvège. Après, il y a beaucoup de questions derrière. Le coût de ces carburants, la quantité aussi qu'on sera capable de produire. Et ça, c'est un sujet énorme.
Mais néanmoins, le kérosène solaire, ça existe. C'est fabriqué exclusivement avec des énergies renouvelables, l'eau, l'air, le solaire. Et ça s'utilise comme un carburant normal. Pas besoin de changer les moteurs pour faire décoller les avions. Et la moitié des besoins en kérosène de la Suisse, nous dit le communiqué de Swissair, pourra être assurée par le kérosène solaire d'ici 2030.
Là, encore une fois, ça reste à démontrer. Juste pour donner un ordre de grandeur, par exemple, un projet que je connais un peu mieux en Norvège, Norsky Fuel, la Norvège prévoit de construire une grosse usine de fabrication de carburant synthétique non fossile, et cette usine devrait produire 25 000 mètres cubes par an. Alors, quand on dit 25 000 mètres cubes, ça paraît beaucoup. Par contre, si on prend en compte le fait qu'un A320 emporte 25 mètres cubes dans ses soutes, ça veut dire que ça peut remplir 1000 A320. Et si maintenant, on pense qu'on a 500 000 mouvements d'avions à Roissy, c'est-à-dire 250 000 atterrissages, 250 000 décollages, on voit quand même qu'il y a un gros écart d'échelle entre une usine comme ça et le trafic sur un gros aéroport international. Déjà, ces carburants représentent un élément de solution si on s'intéresse aussi à l'usage. C'est-à-dire que si l'enjeu, c'est de décarboner quelques vols qui traversent la planète pour emmener des diplomates, des personnes qui doivent faire des affaires, etc., ça c'est faisable, c'est envisageable. Ce seront des vols qui coûteront cher, mais qu'on peut décarboner. Si l'enjeu, c'est de continuer à faire croître le trafic Paris-Barcelone à 15 euros, là, c'est complètement inenvisageable. Donc ça, c'est un premier élément. Concernant les dépendances, il faut faire attention à ne pas substituer des dépendances aux combustibles fossiles importés, ce qui nous pose quelques problèmes, là, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure vis-à-vis de la Russie, à des dépendances à des carburants non fossiles qui seraient eux-mêmes importés. Si par exemple on veut produire des carburants dans le Sahara, quelle sera la situation géopolitique des pays du Maghreb dans 10, 20, 30 ans? On n'a aucune visibilité là-dessus.
Oui, effectivement. Le pétrole, on en trouve de moins en moins, hein.
Moins qu'on puisse dire.
C'est ce que montre votre livre. On en trouve de moins en moins et on en cherche de moins en moins aussi.
Tout à fait. Les découvertes de pétrole sont passées par un maximum dans les années 60. On en découvre moins qu'on en consomme depuis les années 80. Et l'an dernier, on a découvert moins de 10% de ce qu'on a extrait. Donc, on va avoir un problème.
On va avoir un problème, c'est pour ça qu'il y a les pétroles non conventionnels, comme on les appelle, c'est-à-dire les pétroles de schiste, mais qui demandent de bien plus d'énergie et de matière pour être extraits que les pétroles conventionnels ou les pétroles issus de sable bitumeux. C'est ça sur lequel on compte ?
Bah disons que les pétroles non conventionnels, les pétroles de schiste aux États-Unis, les pétroles issus de sable bitumineux au Canada ont permis de remettre une pièce dans la machine. En fait, quand je disais que les extractions de pétrole conventionnel sont devenues inférieures aux découvertes dans les années 80, en fait, dans les années 2000, elles ont commencé à décliner. Et donc, le prix du pétrole s'est envolé. Vous vous souvenez peut-être, en 2008, le prix du pétrole est plus de 140 dollars, qui est resté très élevé à plus de 100 dollars jusqu'en 2014. Ça a permis de lancer l'extraction de pétrole qu'on connaissait depuis très longtemps, mais qu'on n'avait pas pas aller chercher pour des raisons économiques.
Il était devenu trop cher.
Oui, voilà. Parce que le prix du pétrole s'était envolé. Après, ces pétroles-là, il y a une équation économique difficile à trouver pour les extraire. Et même avant le Covid, l'industrie du pétrole de schiste aux États-Unis ralentissait.
Mais la demande mondiale de pétrole, elle n'a cessé de croître. Donc, si les réserves deviennent insuffisantes, on ne pourra pas en extraire davantage pour répondre à la demande. Donc, les prix vont s'envoler. Et ça va arriver quand? D'ici 2030, en fait.
Oui, d'ici 2030. Pour prendre quelques exemples, Hélène Christopherson, qui est la vice-présidente stratégie de Total, a annoncé au printemps 2020 ou 21, je ne sais plus, que Total s'attendait à un déficit offre-demande de 10 millions de barils par jour à horizon 2025. 10 millions de barils par jour, c'est 10% de ce qu'on consommait avant le Covid. Donc, c'est-à-dire, à horizon 2025, un gap de 10% entre l'offre et la demande. L'Arabie Saoudite s'attend à un déclin des extractions de 30 millions de barils par jour, c'est-à-dire 30% de ce qu'on consomme à horizon 2030. Donc, oui, dans la décennie... Sans même parler de la guerre en Ukraine, et on s'attendait à un gros problème sur l'approvisionnement pétrolier, avec une demande qui augmente et une trajectoire d'offres qui est orientée à la baisse.
Alors, puisque vous parlez de la guerre en Ukraine, le gaz, il est devenu, depuis la guerre en Ukraine, le problème numéro un de l'Europe. En Europe, les réserves gazières sont en voie d'épuisement. Hein. Les extractions sont en déclin chez les trois principaux producteurs de gaz, la Norvège, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. L'Europe dépend donc de la Russie et de plus en plus de voix s'élèvent pour demander que l'Europe cesse d'acheter le gaz russe. Joe Biden propose d'acheter à la place du gaz américain. Est-ce que c'est possible ?
De façon marginale, oui, mais de façon marginale. En 2019, la Russie a fourni près de 200 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe, au sens géographique, donc Algérie incluse. Joe Biden a proposé de vendre 15 milliards de mètres cubes en plus à l'Europe. 15 milliards, 200 milliards, ça fait 7%. Donc oui, on va essayer d'importer un petit peu plus de gaz à droite, à gauche, mais c'est sans commune mesure avec les quantités significatives, phénoménales de gaz qu'on importe de Russie. La Russie, c'est 40% de l'approvisionnement gazier européen, et c'est un rôle de plus en plus important dans l'approvisionnement gazier européen au fur et à mesure que les extractions gazières européennes déclinent. Notamment la Norvège, qui est notre deuxième fournisseur et qui a passé son pic, donc, dont les extractions déclinent, depuis 2017. Donc chaque année, il y a un petit peu moins de gaz en provenance de Norvège que l'année d'avant.
Mais alors, le gaz est utilisé pour se chauffer, il est utilisé dans l'industrie, il est utilisé pour produire de l'électricité, moins chez nous parce qu'on a des centrales nucléaires, mais ailleurs en Europe et notamment en Allemagne, c'est très important pour produire de l'électricité. Comment on va faire ?
C'est une bonne question. Là, il n'y a pas de solution miracle. Il aurait vraiment fallu anticiper ça. En fait, il y a un certain nombre de pays européens qui ont fait un pari d'une dépendance durable au gaz dans la décennie dernière, quand le gaz coûtait pas cher dans un marché inondé par le gaz de schiste. Donc, ils se sont dit « Ah bah chouette, ça coûte pas cher, on parie là-dessus et puis ça coûtera jamais cher. » De fait, il aurait fallu penser à un peu plus long terme. Et même en France, on n'a pas fait un pari du gaz, mais on n'a pas fait d'effort pour réduire notre dépendance. Donc là, on se retrouve avec une situation qui va être difficile à gérer. Donc, il va falloir faire des économies d'énergie. Ça, on va pas y couper et essayer de substituer le gaz par des alternatives, donc de l'électricité. Il va falloir développer les renouvelables, le nucléaire, il va falloir développer aussi d'autres énergies bas carbone thermiques, les pompes à chaleur en remplacement des chaudières à gaz, en priorité des chaudières à gaz les plus vieilles, développer le biogaz aussi, qui n'a pas la possibilité de remplacer la totalité du gaz fossile. Le gisement mobilisable est environ 4 à 5 fois inférieur à notre consommation actuelle de gaz en France. Mais c'est toujours ça qu'il faut réussir à aller chercher. Donc il va vraiment falloir investir massivement dans les alternatives et faire de sérieuses économies d'énergie.
En attendant, en plus, que le pétrole vienne à manquer.
Voilà, la situation énergétique en fait en Europe est très très préoccupante pour les prochaines années, à la fois sur le pétrole, sur le gaz et aussi en partie sur l'électricité, parce que l'électricité est produite en partie à partir de gaz, comme vous l'avez dit. Donc,
Et en attendant, peut-être le kérosène solaire.
Voilà.
Mais moi, j'y crois au kérosène solaire.
Oui, non, mais là, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a beaucoup de technologies pour produire des carburants d'aviation non fossiles qui sont en train de se développer. Alors, soit de la production directe à partir d'énergie solaire, soit de la production à partir d'hydrogène bas carbone, qu'on peut faire réagir après avec du CO2 et faire des hydrocarbures à partir de là. Donc, il y a plusieurs projets assez différents qui se développent un peu partout en Europe. On verra dans les prochaines années lesquels sont les plus prometteurs, ceux qui se développent bien. Donc, Donc là, pour l'instant, il y a une sorte de bouillonnement et on verra dans les prochaines années ce que ça donne.
Merci Maxence Cordier, je renvoie
Merci
votre
beaucoup.
Livre hein, Énergie au pluriel, ça vient de paraître dans la collection Fake or Not chez Tana Édition. On se retrouve juste après une pause avec Marianne Chaillan. On va parler des messages philosophiques contenus dans les films de Walt Disney.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Marianne Chaillan.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes professeur de philosophie et l'on réédite en poche chez Alpha votre livre « Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux ». C'est un petit traité sur la sagesse dans les dessins animés de Walt Disney. Car il y a, dites-vous, un message philosophique à destination de nos enfants dans tous les films Disney.
Oui, oui, et ça peut paraître surprenant de prime abord que d'associer Disney à la philosophie. L'un passe pour être naïf, voire guimauve, le second abstrait. Et pourtant, j'ai fait le pari qu'il y avait dans ces dessins animés de Disney bien des pépites de sagesse qui peuvent nourrir les enfants, mais aussi les adultes.
Et on peut le constater. Hein. Commençons par le Roi Lion. Pour vous, c'est une leçon de stoïcisme. Hein. On n'est pas libre de faire ce qui nous plaît.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je l'utilise en cours. Ça marche très bien pour expliquer cette doctrine philosophique qu'est le stoïcisme. On se rappelle sans doute de ce jeune Simba qui découvre deux personnages qui sont Timon et Pumba qui vont en fait se révéler des maîtres en philosophie en lui apprenant ce mantra Hakuna Matata, un mantra au fond qui, comme la philosophie de Marc Aurèle, nous permet de nous affranchir de ce qui nous fait violence et de retrancher notre esprit, ce qu'on a fait, la crainte du passé, le souci de l'avenir, les émotions qui nous oppressent pour se concentrer ici et maintenant. Et ça, construire sa citadelle intérieure ou être dans une oasis en plein désert, c'est de la philosophie stoïcienne.
Vous dites que dans le royaume, il y a aussi une leçon de gouvernement. Un royaume est un équilibre délicat, il faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures.
Oui, et plutôt qu'une leçon de philosophie politique, j'y vois aussi une leçon toujours stoïcienne hein, sur la nature de la liberté. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut, comme le croit d'ailleurs le jeune Simba, mais c'est apprendre effectivement qu'on participe de l'histoire de la vie, comme cette chanson qui ouvre et qui clôture le dessin animé.
Et Peter Pan, alors, c'est quoi la leçon philosophique dans Peter Pan, à votre avis ?
Bah, moi, Peter Pan, ça m'a permis de me demander, est-ce qu'on peut distinguer le rêve de la réalité? Est-ce que ce beau pays imaginaire, est-ce que c'est un rêve, le rêve de Wendy, ou est-ce que c'est une réalité? Et je me dis que Disney, d'une certaine manière, nous donne un secret du bonheur en nous disant « rêve ta vie en couleur », nous apprend les vertus de l'imaginaire.
Et Pocahontas?
Alors Pocahontas, quand on embarque sur le navire, la Virginia Company, ben, je pense qu'on embarque aussi avec Montaigne. Et on apprend ce concept que Montaigne travaille de sauvage, de barbarie, et comment ce concept ne relève que d'un rejet de ce qui nous est étranger. Et se double aussi d'ailleurs chez Montaigne, comme dans Disney, d'une critique de la prétendue civilisation. Bref, en regardant Pocahontas, on apprend que rien de ce qui est humain ne nous est étranger.
Et Aladdin alors?
Ah, alors Aladdin, en fait, on retrouve Montaigne, mais cette fois direction Agrabah, et on reçoit une leçon de philosophie sur la nature du bonheur. Le bonheur, c'est pas obtenir ce qui nous manquerait, ces choses que Aladdin souhaite au génie de la lampe. Non, être heureux, c'est comprendre que rien ne nous sépare du bonheur, sinon nous-mêmes, sinon les représentations qu'on se fait du bonheur. Bref, c'est avoir compris, comme le fait Aladdin à la fin, qu'il n'est nul besoin de génie.
Et le livre de la jungle ?
Alors là, Balou, cet ours philosophe hein, qui chante « Il en faut peu pour être heureux », nous initie, lui, je crois du moins, à la philosophie d'Épicure. Il nous apprend cette leçon qu'on trouve dans la lettre à Ménécée, que certains de nos désirs sont naturels, les autres sont vains, et que si on veut être heureux, il en faut peu pour être heureux, et il faut s'adonner uniquement aux désirs naturels, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous procure la nature. Ça suffit.
Marianne Chaillan, au fond, les films Disney, leur leçon, c'est contente-toi de ce que tu as, n'en demande pas plus.
C'est vrai, c'est vrai. Et on retrouve même. Alors, c'est étonnant parce que d'un côté, ils valorisent le rêve, ils valorisent l'imaginaire, mais en même temps, ils nous mettent en garde et ils nous disent apprends à apprécier ce que tu possèdes. Et c'est une leçon qu'on trouve d'ailleurs dans La Petite Sirène, ce dessin animé qui est emprunté au conte d'Andersen. Et là, Disney, c'est dans ce dessin animé très intéressant, Disney nous invite à rêver, mais précise que l'imaginaire doit toujours être au service du réel. Il nous met en garde. Le destin d'Ariel est tragique. Elle rêve tellement sa vie, elle, pour le coup, qu'elle en vient à déprécier ce qu'elle possède. Et Disney nous met en garde. Attention, attention à bien apprécier ce que l'on possède pour être heureux.
Vous avez évidemment, Marianne Chaillan, revu tous les films de Disney pour écrire votre livre. Est-ce que ces adaptations, car ce sont la plupart du temps des adaptations, alors d'Hans Christian Andersen pour ce qui est de La Petite Sirène, de Rudyard Kipling pour ce qui est du Livre de la Jungle, de Collodi pour ce qui est de Pinocchio, est-ce que les adaptations sont édulcorées dans les dessins animés de Disney?
Ouais, ben voyez, cette petite sirène que j'évoquais, à la fin du dessin animé de Walt Disney, cela finit bien, la petite sirène est sauvée, elle se marie avec son prince, ce qui n'est pas du tout le cas chez Andersen, et donc effectivement, Disney ménage son public, mais sans néanmoins lui cacher les réalités douloureuses, puisque vraiment ce dessin animé nous met en garde sur les dangers qui pèsent sur nous, et il est vrai que in extremis tout de même, voilà, on modifie la fin pour que le public ne soit pas trop dans la souffrance.
Faisons une pause, Marianne Chaillan, on y revient juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Marianne Chaillan, à qui l'on doit Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux, qui vient d'être réédité en poche chez Alpha. C'est un petit traité de la sagesse contenu dans les dessins animés de Walt Disney, du moins de l'entreprise, de la multinationale Disney aujourd'hui. La Reine des Neiges, par exemple. C'est quoi la morale de La Reine des Neiges?
Eh bien, si vous vous rappelez, au début du dessin animé, l'une des deux héroïnes chante un hymne qui s'intitule « L'amour est un cadeau ». Eh bien, tout ce dessin animé nous dit « c'est pas si sûr que cela hein ». Parce qu'avec Elsa, sa sœur, mais avec Stendhal, avec Lucrèce, je pense, qui infuse de manière indirecte la philosophie de ce dessin animé, on va apprendre qu'il faut se méfier du désir amoureux comme de la peste. Et c'est assez original dans un dessin animé de Disney, que nous soyons mis en garde contre le désir qui, loin d'être la source inévitable du bonheur, peut même nous conduire au pire des malheurs.
Au fond, c'est contre la cristallisation amoureuse.
Exactement.
Si chère à Stendhal, d'ailleurs.
C'est ça, voilà. Stendhal nous apprend que quand on est amoureux, on ignore tout de l'objet aimé parce que le coup de foudre nous a rendu aveugles. Et que ce qu'il appelle la cristallisation, hein, ce sont ces cristaux de sel qui apparaissent sur un bout de bois mort qu'on tremperait dans l'eau. Et bien, le bout de bois mort, c'est l'objet du désir qui, sous l'effet du désir, apparaît merveilleux, mais qui en réalité n'est qu'un bout de bois mort. Et étonnamment, La Reine des Neiges, ce dessin animé, loin de vanter, et c'est l'image qu'on a du Disney, hein, cette image un peu naïve sur le désir, voilà, ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants, c'est pas du tout ce que nous dit La Reine des Neiges. Hein. La Reine des Neiges nous dit attention au désir, attention quand vous tombez amoureux, vous vous exposez à la pire des souffrances.
Ce que dit La Reine des Neiges aussi, c'est que la personne dont on tombe amoureux, au fond, n'est qu'un prétexte.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est triste, hein, un prétexte à l'exercice de cette capacité désirante. Mais en vérité, cet objet-là, puisqu'on en ignore tout, en définitive, n'est en rien la cause de l'objet du désir.
Mais alors, c'est toujours drôle parce qu'on se demande toujours effectivement ce que nos enfants retiennent des dessins animés qu'ils vont voir au cinéma ou qu'ils regardent chez eux à la maison en DVD. Robin des Bois, par exemple, à votre avis, ils en retiennent quoi?
Ouais, moi, je l'ai vu enfant, ce dessin animé, et en plus, je l'adorais. La fiancée de Robin s'appelle Marianne, comme moi, donc j'avais adoré ce dessin animé. Et j'en ai gardé une sympathie, une forte sympathie pour ce prince des voleurs qui vole l'argent du prince Jean, mais pour mieux le redistribuer. Et je crois que ce dessin animé, moi, en tout cas, avec les yeux d'adulte, hein, m'a permis de faire un peu de philosophie morale. Et je me suis demandé, mais au fond, est-ce que c'est bien moral de voler par nécessité, hein? Est-ce que Robin, Petit Jean, ont raison, comme ça, de déposséder le prince Jean pour le distribuer au peuple de Nottingham? Et ça me permet, dans le livre, d'opposer deux systèmes moraux, le système d'Emmanuel Kant à celui des conséquentialistes. Et voilà, de permettre au lecteur aussi de choisir son camp. Est-il du côté du prince Jean ou du côté de Robin des Bois?
Ben, les enfants sont du côté de Robin des Bois, ça c'est sûr. Hein. Donc ils considèrent que c'est moral de voler par nécessité.
Voilà, tout à fait.
Et dans Pinocchio?
Alors Pinocchio, quand je l'ai revu pour le dessin animé, Je me suis dit que bien avant les questions contemporaines, actuelles, hein, sur la différence entre les machines et l'humain, finalement, Pinocchio nous interrogeait sur cela, hein, sur cette différence entre l'homme et la machine. Et la réponse que le dessin animé nous donne est très claire. C'est l'aptitude à la moralité. Et d'ailleurs, quand je l'ai revu, Pinocchio, dessin animé que j'avais adoré enfant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est moral? C'est extrêmement moral, hein. Et donc, j'y trouve l'idée cartésienne, hein, que la machine, le pantin de bois, est dépourvu de libre arbitre, donc il peut pas faire l'objet d'un jugement moral, il n'a pas d'aptitude à la moralité, mais c'est la possibilité de faire le choix moral et le fait de faire un choix moral qui nous spécifie en tant qu'humain, qui nous définit en tant qu'humain. Voilà, la moralité comme... l'aptitude à la moralité comme condition, comme fondement de la définition de ce qu'est un homme.
Ce qui marque aussi beaucoup les enfants dans les dessins animés de Walt Disney, ce sont les méchants.
J'ai consacré un chapitre entier aux méchants. Hein, ouais. Ce personnage qu'on adore détester et qui joue un rôle très important dans les dessins animés. Je me suis demandé à chaque fois quelle était la racine de leur méchanceté. Par exemple, Hadès ou Scar. Donc Hadès, c'est dans Hercule. Scar, c'est dans Le Roi Lion. Tous les deux, ils illustrent parfaitement un concept de Nietzsche qui est le concept de ressentiment. C'est-à-dire un état dans lequel, parce qu'on est malheureux, on va désigner un sujet à propos duquel on dit « c'est sa faute si je suis malheureux, c'est sa faute, c'est ça le ressentiment ». Et Hadès et Scar sont des êtres du ressentiment. On a aussi une énorme leçon de philosophie avec Maléfique, un personnage que j'adore. Maléfique, elle nous donne une leçon spinoziste sur les passions tristes. Elle souffre
C'est dans La Belle au Bois dormant, hein, si je me trompe.
C'est dans
pas.
La Belle au Bois dormant, mais aussi dans un film qui a été plus récent avec Angelina Jolie dans le rôle de Maléfique. On apprend comment Maléfique est devenue maléfique, pourquoi on devient méchant. Et en fait, Maléfique, elle a fait une erreur de philosophie. Si elle avait lu Spinoza, elle serait restée la fée qu'elle était au début. Hélas, elle n'a pas lu Spinoza. Et elle pense que Stéphane, qui était son amant, l'a mutilée volontairement, lui a fait du mal volontairement. Si elle avait lu l'éthique, elle aurait appris comment les choses adviennent par nécessité et non par libre volonté. Elle ne se serait pas jetée dans cette passion triste qui l'amène à basculer du côté obscur. Le côté obscur, c'est Disney maintenant en plus. Avec Star Wars.
Et Cruella, dans les 101 Dalmatiens?
Alors Cruella, eh bien, je consacre un chapitre aux 101 Dalmatiens et je soumets le lecteur au test « Est-il une Cruella en puissance ?» Et pour savoir si vous avez du Cruella en vous, je vous raconte une expérience de pensée qu'on trouve chez le philosophe ruvanogien. Une expérience du canot de sauvetage, je laisse vos auditeurs la découvrir. Hein, et selon votre réponse, eh bien, vous découvrirez si Cruella est une cruelle diablesse ou si vous avez du Cruella en vous. En tout cas, ce Disney, en 1961, éveillait déjà les spectateurs à l'éthique animale. C'était assez pionnier.
Merci Marianne Chaillant. C'est un livre tout à fait passionnant. Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. Si vous voulez savoir ce que les enfants retiennent des dessins animés de Disney, il n'y a pas mieux.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans un instant, c'est le grand rendez-vous. Europe 1, c'est News, les échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invité?
Bonjour à vous, cher Frédéric. Deux invités pour ce grand rendez-vous. Jordan Bardella du Rassemblement National et Clément Beaune, secrétaire d'État en charge de l'Europe. Et pour les interroger, je serai entouré de Cécile Cornudet et Mathieu Bock-Côté.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.